Les podcasts du Collège de France, philosophie.
Je crois que la dernière fois, j'ai oublié de vous citer le passage de la préface d'Armance de Gide auquel Charles Dubos fait allusion dans un extrait que j'ai cité. Alors, il s'agit donc d'une préface que Gide a rédigé en 1925, donc pour une édition du roman de Stendhal, un roman pour lequel il éprouvait du reste une certaine prédilection, comme il explique lui-même. Et pour comprendre ce qui est en question, il faut quand même rappeler brièvement ce qu'est le thème, le sujet de ce roman. Le héros, Octave, qui est épris d'une femme qui s'appelle Armance, lui annonce à différentes reprises qu'il va lui faire un aveu extrêmement douloureux, c'est-à-dire qu'il a une révélation à lui faire, mais il ne réussit pas à la faire, c'est-à-dire il garde finalement le silence sur ce qu'il était censé lui apprendre. Stendhal, du reste, ne dit pas explicitement de quoi il est question, c'est-à-dire il ne dit pas lui-même clairement de quoi, quel est exactement le problème de son héros. Son problème est qu'il est impuissant et qu'il ne parvient pas à l'avouer à la femme qu'il aime pour des raisons qui sont de nature diverse et qu'on peut comprendre sans trop de difficultés. L'une d'entre elles étant celle que Gide exprime en disant que tout compte fait, il préfère encore avoir la réputation d'être un débauché à l'aveu du fait qu'il n'a pas les moyens de l'être. Dans sa préface, Gide remarque que Stendhal ne propose pas de solution à ce problème, c'est-à-dire de quelle façon peuvent évoluer les relations entre un homme et une femme qui se trouvent confrontés à ce type de problème. Donc Stendhal n'a pas proposé de solution. Il ne dit d'ailleurs pas, encore une fois, explicitement avec quel genre de problème est aux prises son héros, mais il le dit, en revanche, tout à fait clairement, dans une lettre à Mérimée à laquelle Gide fait allusion. Et à la fin de sa préface, Gide s'interroge donc sur ce problème que j'ai évoqué sous une forme plus générale. Quel intérêt peut-il y avoir à s'intéresser à des questions pour lesquelles on n'est pas du tout certain de réussir à trouver une solution ou même simplement quelques éléments de solution. Et c'est dans ce contexte donc qu'il soulève la question, c'est cela la phrase à laquelle Dubos fait allusion, mais pourquoi chercher une solution? La vie nous propose quantité de situations qui proprement sont insolubles et que seule la mort peut dénouer après un long temps d'inquiétude et de tourments. J'imagine Octave épousant Armance, j'imagine celle-ci perplexe d'abord, puis douloureusement résignée, et je ne parle ici que de la résignation amoureuse, mais pour nombre de femmes, le renoncement à la maternité qui s'ensuit est plus cruel encore, sans doute, et plus durablement. J'imagine Octave moins aisément résigné qu'Armance, ou plutôt moins profondément, se représentant sans cesse ce dont il la prive et qui pisait le lui représentant. J'imagine les vains essais, les protestations dont l'amour est prodigue, les doutes, puis l'âge venant et à supposer que leur amour perdure, la lente épuration de cet amour, dernier terme est très incertainement atteint, que parodie l'accoutumance. Bon, je ne vais pas continuer à vous citer la préface. Ce que Gide veut dire est qu'au fond, c'est un peu absurde de demander au roman d'apporter des solutions à des problèmes comme celui dont il s'agit dans le roman de Stendhal, pour la raison que précisément la vie n'apporte généralement pas de solution à ce type de question. Si la vie n'apporte pas de solution à ce type de problème, il est tout à fait déraisonnable d'exiger que le roman le fasse, sauf si on adopte un point de vue qu'on pourrait qualifier de moraliste sur ce genre de situation. Et d'ailleurs, Gide conclut sa préface en citant une phrase de Tolstoï, qui est rapportée par Gorki, et dans laquelle il est dit ceci, l'homme, c'est Tolstoï qui parle, donc l'homme survit à des tremblements de terre, aux épidémies, aux horreurs de la maladie et à toutes les agonies de l'âme, mais de tout temps, la tragédie qui l'a tourmenté, qui le tourmente et qui le tourmentera le plus, c'est et ce sera la tragédie de l'alcôve. Fin de citation. Alors évidemment, si c'est le genre de problème, si ces problèmes-là sont des problèmes qui sont en quelque sorte intrinsèquement dépourvus de solutions, si la vie ne leur en apporte pas, sauf de façon générale sous la forme de cette solution, si c'en est une, que représente la mort, Gide estime qu'il est un peu déraisonnable de demander au roman d'apporter de son côté des solutions, et qui plus est, des solutions qui seraient de type nouveau. Alors c'est ce genre de considération que, dont Dubos se demande si on ne devrait pas les généraliser. C'est-à-dire, la question qui se pose est, est-ce qu'on ne devrait pas de façon générale, quelle raison y a-t-il, si vous voulez, de se priver de la possibilité de discuter des problèmes en dépit du fait qu'on a très peu d'espoir de réussir à les résoudre, ce qui semble être le cas vraiment de façon tout à fait typique de la philosophie en général, puisqu'il ne semble pas déraisonnable de dire que, dans son cas, on a l'impression qu'il n'y a, pour ainsi dire, jamais aucune question qu'elle est parvenue véritablement à résoudre. Alors, je vais laisser de côté ce problème. C'était un peu une digression, mais qui n'est pas sans rapport avec la question à laquelle nous nous trouvons confrontés sans cesse, c'est-à-dire celle de cette pluralité apparemment irréductible de solutions qui semble caractériser la philosophie et qui, dans l'esprit de beaucoup de gens, équivaut à une absence de solutions pure et simple, puisque là où il y a une pluralité irréductible de solutions incompatibles entre elles et irréconciliables, on peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas du tout de solution. Alors, je vais revenir maintenant à la question que j'avais commencé à vous parler en terminant. J'avais indiqué qu'on a pris conscience à un moment donné d'une certaine tension et peut-être même d'une certaine incompatibilité qui est susceptible d'apparaître entre deux principes auxquels on a de bonnes raisons de tenir dans les deux cas, c'est-à-dire d'un côté le principe de bivalence, donc qui postule que toute proposition, à condition, comprenez toute proposition de forme assertorique, à condition d'avoir un sens suffisamment déterminé, doit être vrai ou faux, donc c'est ce qu'on appelle le principe de bivalence. Et puis, en face de cela, il y a un principe que Domet appelle le principe K, en français on dirait le principe C, c'est-à-dire le principe de connaissabilité qui énonce qu'il ne peut pas y avoir une discordance complète entre la vérité pour une proposition et la possibilité pour nous de connaître cette vérité. Alors, il y a une tension qui est susceptible d'apparaître entre ces deux principes, parce que naturellement, si on maintient dans toute sa généralité, donc sans aucune restriction, le principe de bivalence, toute proposition qui a un sens suffisamment déterminé, soit vrai, soit faux, si on maintient ce principe dans toute sa généralité, on sera amené presque fatalement à accepter l'idée de propositions qui sont vraies, mais de façon inconnaissable, ce qui, évidemment, est gênant si, simultanément, on tient à affirmer, également sans restriction, le principe de connaissabilité, c'est-à-dire le principe qui affirme la possibilité de connaître la vérité de principe, qui affirme la possibilité de principe de connaître la vérité de n'importe quelle proposition vraie. Alors, j'ai évoqué cette question parce que on pense souvent qu'il existe qu'il y a un lien d'une certaine sorte entre, pour dire les choses un peu brutalement, si vous voulez, entre le théisme et le réalisme, c'est-à-dire entre la possibilité de défendre une position réaliste stricte, laquelle, pour un philosophe comme Domet, est caractérisée par une adhésion inconditionnelle au principe de bivalence. Donc on pense qu'il existe un lien d'une certaine sorte entre la défense de ce type de position et la référence à l'idée d'un sujet omniscient hypothétique qui en l'occurrence donc se trouve être Dieu. Donc c'est de cette question-là que j'aimerais vous parler de façon un peu plus précise aujourd'hui sous le titre La vérité, le réalisme et l'idée du sujet connaissant omniscient. Donc je ne m'intéresse pas spécialement, vous vous en doutez, à la question de l'existence du sujet omniscient en question, mais uniquement à la question de savoir s'il y a ou non un lien de l'espèce indiquée entre le réalisme d'une part et la croyance à l'idée d'un sujet omniscient. Pourquoi est-ce que l'idée du sujet omniscient hypothétique intervient ici ? Bien parce que précisément, elle permet, semble-t-il, assez naturellement et assez commodément de combler la distance qui existe entre les deux principes qui semblent susceptibles d'entrer en conflit, c'est-à-dire le principe de bivalence d'une part et le principe de connaissabilité d'autre part. En effet, il est possible de supprimer le hiatus qui existe entre ces deux principes en disant que toute proposition, le principe de bivalence peut être affirmé dans toute sa généralité, toute proposition est soit vraie, soit fausse, puisque, hein, ne serait-ce que parce qu'il existe un sujet connaissant omniscient qui sait, dans tous les cas, pour une proposition ayant un sens suffisamment déterminé, donc un sujet omniscient qui sait si elle est vraie ou si elle est fausse. Et si, du moment qu'il sait si elle est vraie ou si elle est fausse, alors elle doit être vraie ou fausse, puisque, étant donné un sujet connaissant X quelconque, hein, omniscient ou non, de X, c'est que P, on peut déduire que P est vrai. Par conséquent, si on ne peut pas dire de quelqu'un qui sait une certaine proposition P ou qui connaît une certaine proposition P, qu'il en a une connaissance si cette proposition est fausse. Par conséquent, s'il y a un sujet omniscient hypothétique qui, pour toute proposition ayant un sens univoque, sait si cette proposition est vraie ou si elle est fausse, alors toute proposition de cette sorte doit être soit vraie, soit fausse. Ça semble par conséquent apporter de l'eau au moulin de l'acceptation non restreinte du principe de bivalence. Alors, c'est la question, cette question des relations entre le théisme et entre le réalisme et le théisme a été évoquée à différentes reprises par Domette, et j'avais cité en terminant donc un passage où il est question de ça. La question que se pose Domette est celle de savoir si, pour pouvoir affirmer qu'il y a dans tous les cas une manière dont les choses sont réellement, qui se trouve en quelque sorte au-delà de la façon, de la manière dont elles nous apparaissent, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous autorise à affirmer dans tous les cas ceux avec lesquels nous avons l'occasion d'être confrontés et ceux que nous ne prenons peut-être jamais en considération, qu'est-ce qui nous autorise à affirmer l'existence d'un contraste entre, d'une part, la manière dont les choses sont susceptibles d'apparaître, comprenez, d'apparaître à un être connaissant, doué de facultés de connaissance de telle ou telle nature, par exemple d'un appareil sensoriel du genre d'une autre ou de celui des animaux en général, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer l'existence d'un contraste entre cela, la manière dont les choses sont susceptibles d'apparaître et une manière supposée dont elles sont réellement. Et la réponse que suggère Domette est qu'au fond, nous avons peut-être besoin, pour pouvoir maintenir dans toute sa généralité l'existence de ce contraste, d'une garantie qui est de nature théologique, c'est-à-dire la référence à un sujet omniscient qui, dans tous les cas, sait comment les choses sont réellement, qui ne les connaît même que de cette façon, c'est-à-dire d'un sujet pour lequel ce contraste entre la manière dont les choses apparaissent et la manière dont les choses sont n'existe pas. Donc, peut-être que c'est uniquement, ou en tout cas essentiellement, parce que nous avons en tête l'idée d'un sujet de cette sorte, pour lequel connaître veut dire, dans tous les cas, connaître les choses telles qu'elles sont en soi, peut-être que c'est pour cette raison que nous avons tendance à penser que nous considérons comme légitime de nous servir, dans tous les cas, de ce contraste entre la manière dont les choses apparaissent et la manière dont elles sont réellement. Alors, c'est ce que Domette dit dans le passage que vous avez sous les yeux, le principe dont elle dépend, donc il s'agit de la connaissance de Dieu, au sens de la connaissance que Dieu a de la réalité, le principe dont elle dépend est qu'il doit appréhender les choses comme elles sont réellement, comme elles sont en elles-mêmes, plutôt que comme elles apparaissent d'un point de vue ou d'une perspective particulière ou par l'usage de facultés particulières. Donc il s'agit d'une connaissance qu'on peut peut-être considérer comme une connaissance sans point de vue et sans perspective, et également une connaissance qui ne fait référence à rien d'autre qu'une faculté de connaissance en général, il y a une faculté de connaître. En Dieu, il ne semble pas qu'il puisse y avoir de distinction réelle des facultés. La réflexion sur la conception que saint Augustin a de Dieu comme étant la vérité elle-même permet une énonciation plus exacte de ce principe. La manière dont les choses sont en elles-mêmes doit être définie, soulignée, et peut être définie uniquement comme la manière dont elles sont appréhendées par Dieu ou comme la manière dont Dieu sait qu'elles sont. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se représenter les choses comme si il y avait d'un côté la manière dont les choses sont ou ne sont pas réellement, et que la situation étant telle qu'on peut toujours affirmer qu'il y a toujours une manière dont les choses sont réellement, et puis il y a par ailleurs un être, en l'occurrence Dieu, qui est un être omniscient qui sait dans tous les cas comment elles sont réellement, qui ne connaît même les choses que de cette façon. En réalité, il est possible que la manière dont les choses réellement sont réellement ne puisse être définie que comme étant la manière dont Dieu sait qu'elles sont. Si c'est le cas, ça signifierait que nous avons besoin de cette référence à Dieu, considérée de façon augustinienne ou quasi-augustinienne, comme étant lui-même la vérité, nous avons besoin de cette référence à Dieu pour pouvoir parler, dans tous les cas, de la manière dont les choses sont réellement. Nous faisons, dit Damède, des distinctions entièrement valides entre la manière dont les choses apparaissent et la manière dont elles sont, des distinctions qui dépendent toujours de la possibilité pour nous de découvrir comment elles sont. Par exemple, nous disons que le bâton dans l'eau paraît brisé, alors qu'il ne l'est pas, parce que nous avons les moyens de nous assurer que, en l'occurrence, il y a une différence réelle entre la façon dont il apparaît et la façon dont il est. On est dont il est réellement. Demain, nous disons que le soleil paraît ou semble tourner autour de la Terre, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout cela qui se passe. Autrement dit, il y a toute une série de situations dans lesquelles nous avons de bonnes et excellentes raisons d'utiliser ce contraste donc, entre la manière dont les choses apparaissent, apparaissent d'un certain point de vue ou apparaissent pour quelqu'un qui utilise des facultés d'une certaine sorte, et puis donc entre cela et la manière dont les choses sont réellement. Mais qu'est-ce qui nous autorise à utiliser ce contraste de façon tout à fait générale? Qu'est-ce qui nous donne, dit Damède, simplement l'idée qu'il y a un niveau ultime auquel une telle distinction ne peut plus être faite, c'est-à-dire un niveau auquel il n'est plus question que de la manière dont les choses sont réellement, et non d'une façon particulière dont elles apparaissent. C'est seulement, dit-il, par une référence à la connaissance que Dieu a de la réalité que cette idée peut être revendiquée. Car la manière dont la réalité se présente à Dieu doit être la manière dont elle est en elle-même, puisque Dieu n'a plus à chercher ce qu'il y a derrière les apparences. Il n'appréhende rien d'une façon particulière, il n'a pas de point de vue. Sa connaissance, donc, est une connaissance sans point de vue. Sans recourir à la manière dont Dieu appréhende la réalité, cependant, nous n'avons pas de garantie qui nous permette de supposer qu'il y a une limite au processus qui consiste à aller au-delà des apparences en direction de la réalité telle qu'elle est en elle-même. Et même si nous présupposons une telle limite, nous n'avons pas de raison de supposer que nous pouvons l'atteindre. Donc, nous ne sommes pas certains, nous ne sommes pas autorisés à invoquer une garantie de cette sorte, nous ne sommes pas certains qu'il existe une limite de cette sorte, et de toute façon, évidemment, même si nous avions des raisons de penser qu'elle existe, nous ne sommes pas certains non plus d'avoir les moyens de l'atteindre. Donc il est possible que le point de vue du réalisme, qui soutient qu'il y a une limite à ce processus consistant à aller au-delà des apparences, une limite qui est constituée par ce qu'on appelle la réalité telle qu'elle est en elle-même, donc il est possible que ce point de vue ait besoin en quelque sorte d'une garantie théologique, c'est-à-dire que connaître les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes ne puisse vouloir dire en fin de compte que les connaître telles que Dieu sait qu'elles sont. C'est la conclusion vers laquelle incline ouvertement Damède, pour des raisons qui méritent sûrement d'être prises en considération. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue que ce qui est en question ici est uniquement une idée absolue et applicable dans tous les cas de la manière dont les choses sont en elles-mêmes. C'est cette idée-là qui soulève un problème et qui peut-être demande pour sa justification une garantie de nature théologique. Et ce qui est en question n'est évidemment pas la possibilité pour nous de faire, dans de nombreuses occurrences, par des moyens qui diffèrent selon les cas, une distinction justifiée entre la manière dont les choses sont réellement et la manière dont elles nous apparaissent quand elles sont considérées de tel ou tel point de vue ou appréhendées à l'aide de telle ou telle faculté. Vous voyez là-dessus ce que dit Damède à propos du cas de la réalité physique. Le contenu d'une description de la réalité physique, observe-t-il, en termes ordinaires ou dans des termes quelconques qui sont en partie dépendants de l'expérience ordinaire, est donné par ses conséquences pour une observation possible d'elle par nous-mêmes ou par des êtres hypothétiques dotés de facultés semblables. Autrement dit, on remarque que notre concept ordinaire de la réalité physique semble être lié de façon directe et peut-être essentielle à la possibilité pour nous d'effectuer des observations d'une certaine sorte, c'est-à-dire la possibilité pour des êtres doués d'un appareil sensoriel comme celui que nous avons à notre disposition d'effectuer des observations d'une certaine sorte. Nous n'avons par conséquent, dit-il, aucune appréhension de ce que cela serait pour elle, entendez, pour la réalité physique, que d'exister dans un univers dépourvu de toute forme de vie douée de sensations. Nous supposons néanmoins que nous avons nous-mêmes une appréhension de cette sorte, puisque en l'imaginant comme existante, nous nous imaginons subrepticement en train de l'observer. Autrement dit, bien que cette réalité soit supposée exister dans un univers qui est dépourvu de toute forme de vie possédant, doué de la capacité de sentir, nous imaginons néanmoins capable de et en train de, d'observer la réalité en question. En contraste avec cela, nous ne supposons même pas que nous avons nous-mêmes une appréhension quelconque de ce que cela serait pour une chose quelconque, décrite en termes purement abstraits, structuraux, que d'exister comme réalité physique, indépendamment du fait qu'elle donne lieu à des phénomènes que nous pouvons observer. Ça, c'est un point qui est tout à fait réel. Est-ce que nous pouvons avoir une idée suffisamment précise de ce que serait une réalité physique qui serait complètement dissociée de toute possibilité d'observation, de tout rapport, si vous voulez, à nos capacités d'observation, et plus précisément de toute espèce de rapport à la sensation. Il s'agirait d'une réalité physique qui serait susceptible d'être décrite en termes purement structuraux et abstraits, comme l'a dit Domet. Et il n'est pas douteux que l'évolution de la physique semble aller assez largement dans ce sens, puisque à certains égards, il devient de plus en plus difficile de faire une distinction sur ce point entre les mathématiques et la physique. La réalité physique est une chose qui semble être décrite de plus en plus dans des termes mathématiques abstraits, à un point tel qu'elle donne l'impression d'être susceptible de se transformer plus ou moins en une réalité de nature mathématique. Bon, mais je ne vais pas m'étendre longuement sur cette question, elle est très difficile. Je vous cite la fin du passage de Domet. Nous ne pouvons pas souligner, atteindre à une forme de description qui en même temps est complètement indépendante de notre expérience et peut être comprise comme décrivant une réalité physique dont l'existence est intelligible en elle-même. Donc là, il rappelle une fois de plus le fait que pour nous, une réalité physique, par opposition à une réalité mathématique, donc c'est une réalité qui doit pouvoir en principe donner lieu à des observations d'une certaine sorte, donc qui doit avoir un certain rapport avec la forme d'expérience que, ou quelque chose d'analogue, si vous voulez, à la forme d'expérience que nous avons de la réalité physique. Cela ne signifie pas que la notion absolue de la manière dont les choses sont en elles-mêmes est incohérente, mais seulement qu'on ne peut lui donner un sens qu'en l'identifiant à la manière dont elles sont connues par Dieu. On peut supposer qu'une réalité physique qui serait complètement dissociée de tout rapport au genre d'expérience que nous avons de la réalité physique serait néanmoins susceptible d'être connue par Dieu, mais évidemment la façon dont elle le serait est une chose qui est condamnée à rester un peu mystérieuse pour nous. La connaissance de Dieu, je veux dire la connaissance que Dieu a, est supposée être une connaissance sans point de vue et sans référence à la distinction des facultés, comme le rappelle Domet. Mais on peut penser que son omniscience implique qu'il sait malgré tout de quelle manière les choses apparaissent à des êtres qui les considèrent de tel ou tel point de vue, avec des moyens de connaissance plus ou moins limités, et en utilisant des facultés de telle ou telle espèce. Autrement dit, il doit être capable, puisqu'il est omniscient, de savoir à chaque fois de quelle façon les choses apparaissent à des êtres constitués comme nous le sommes. Et il sait également, du même coup, si la manière dont les choses nous apparaissent est ou non conforme à ce qu'elles sont réellement. Autrement dit, à la manière dont il sait qu'elles sont. Par conséquent, il doit connaître la réponse aux questions ontologiques, qui constituent, selon Villemin, la source principale de la division entre les philosophes, et il doit connaître également la réponse à la question de la distinction que nous aimerions pouvoir faire entre les choses qui sont réellement et celles qui semblent seulement être. C'est même peut-être, après tout, le fait qu'il le sache, et lui seul, qui donne son sens à l'idée qu'il y a quelque chose qui est décidé et qu'il est indépendamment de nous dans ce domaine. Si nous pensons qu'il y a quelque chose de décidé, objectivement, en ce qui concerne la distinction à faire entre l'apparence et la réalité, est-ce que ça n'est pas là aussi parce que nous attribuons implicitement à un être omniscient la capacité de savoir ce qu'il en est sur ce point, sur la capacité de savoir où passe réellement la ligne de démarcation que la philosophie s'efforce de tracer entre l'apparence et la réalité. L'article de McGuinness, dont je vous ai parlé la dernière fois, donc il s'agit de l'article s'intitule Truth, Time and Deity, Vérité, Temps et divinité. Il s'agit de l'article, donc, de la contribution qu'il a apportée au volume consacré à l'œuvre de Michael Demet. Alors, l'article qu'il a rédigé a été inspiré en grande partie par le lien que Demet semble avoir eu tendance à instaurer entre le réalisme et le théisme. C'est en tout cas une tendance qu'il avait au début. Et il dit sur ce point des choses qui sont à certains égards surprenantes. McGuinness explique qu'il se souvient de l'avoir entendu dire que l'argument le plus satisfaisant, ou en tout cas le moins insatisfaisant, en faveur de l'existence de Dieu, était celui qui identifie de façon augustinienne Dieu à la vérité, avec un grand V. Dans la préface du livre qu'il a publié en 1978, donc Truth and Other Enigmas, La vérité et autres énigmes, Demet écrit ceci à propos de sa relation à la question du réalisme et de l'antiréalisme. Il faut, pour comprendre ça, il faut se souvenir qu'on lui impute souvent la volonté plus ou moins déclarée de faire triompher l'antiréalisme dans tous les domaines, hein, pas seulement dans la philosophie des mathématiques, mais également dans la philosophie de la physique, par exemple, en général. Hein, par exemple, j'ai dû vous parler, je vous ai parlé l'année dernière d'un petit livre qui s'appelle « Truth and the Past », donc « La vérité et le passé », où il s'interroge sur la question de savoir si on ne pourrait pas, et peut-être même si on ne devrait pas, défendre à propos du passé une conception de nature antiréaliste. Alors, il proteste contre cette tendance dans ce passage, et il indique qu'au fond, il n'a pas personnellement de préférence déclarée pour l'antiréalisme plutôt que pour le réalisme. Je n'ai personnellement, dit-il, aucun engagement inébranlable en faveur d'un antiréalisme dans aucun de ces cas, pas même dans le cas mathématique. Effectivement, j'ai donné une fois une conférence dont je n'ai pas inclus le texte dans cette collection, arguant en faveur de l'existence de Dieu pour la raison, entre autres, que l'antiréalisme est en fin de compte incohérent, mais que le réalisme n'est tenable que sur une base théiste. C'est essentiellement l'argument de Berkeley en faveur de l'existence de Dieu. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre un E final à la base. C'est essentiellement l'argument de Berkeley en faveur de l'existence de Dieu, un argument qui est habituellement caricaturé et qui suscite toujours des ricanements. Je n'ai pas inclus l'article parce que je ne crois pas que j'en sache de près ou de loin suffisamment sur la question du réalisme pour être justifié à avancer un tel argument. Donc il n'a pas repris cet argument qu'il avait utilisé dans une phase antérieure. Autrement dit, si je comprends bien ce qu'il explique, parce que je n'ai pas vu le texte en question, qui encore une fois ne figure pas dans Truth and Other Enigmas, d'après ce que Demet dit lui-même, il semble avoir été enclin, à l'époque, à utiliser un argument de l'espèce suivante. Ou bien l'antiréalisme est vrai, ou bien c'est le réalisme qui l'est. Or, l'antiréalisme se révèle en fin de compte incohérent, par conséquent, il est faux, et il est même impossible s'il est incohérent. S'il est faux, le réalisme est vrai, et s'il est vrai, alors le théisme est vrai, par conséquent, Dieu existe. Si c'est bien ce type de raisonnement que Demet pensait avoir le droit d'utiliser, bon, je le trouve un peu surprenant, mais la question est d'autant plus intéressante dans son cas que c'est, si je ne me trompe, un catholique déclaré. En tout cas, c'est un croyant déclaré, et par conséquent, il n'est pas du tout surprenant qu'il ait, à un moment ou à un autre, rencontré ce problème, hein, c'est-à-dire qu'en est-il exactement des relations entre le réalisme et la croyance à l'existence de Dieu, laquelle de ces deux convictions est le plus susceptible de servir de support à l'autre. Enfin, vous voyez le genre de problème qu'on peut se poser. Alors, ce que signifie ce genre de considération, celle que vous avez dans ce passage, peut être précisé d'après McGuinness de la façon suivante. Il y a, dit-il, une approche traditionnelle de la théodicée qui explique pourquoi le théisme, comme Demet le fait remarquer, est vu comme un allié naturel du réalisme. Saint Augustin a des passages dans lesquels il dit que Dieu est la vérité dans et par laquelle toutes les choses sont intelligibles. Que la première chose que nous devons connaître est la vérité par l'intermédiaire de laquelle toutes les autres choses peuvent être connues, que c'est dans la vérité, c'est-à-dire en Dieu, que les vérités éternelles des mathématiques, par exemple, sont connues, que les jugements sur toutes les choses sont formulés en accord avec la vérité divine. De fait, sa forme de démonstration principale de l'existence de Dieu est ce qu'il appelle une montée de l'âme à Dieu, une montée que l'âme effectue en reconnaissant comme supérieure à elle-même une vérité qui ne peut qu'être identique à Dieu. Ce qui est problématique, évidemment, c'est cette idée d'une vérité qui est non pas seulement que Dieu détient, mais que, qui est en quelque sorte identique à Dieu lui-même. Cette forme de platonisme, car, dit McGuinness, c'est ce qu'elle est littéralement, pourrait être considérée comme un argument, ou du moins comme une attitude d'esprit, qui dès le départ rejette le constructivisme. C'est pour ça, du reste, que la question nous intéresse. L'esprit est astreint à reconnaître qu'il y a en mathématiques un corps de vérité qu'il n'est pas capable d'inventer et auquel il n'est pas non plus capable de résister quand son attention est attirée sur elle. Platon, comme nous le savons d'après le Phédon par exemple, pensait que les mathématiques sont simplement le domaine dans lequel ces caractéristiques d'un monde supérieur sont le plus évidentes, mais qu'en fait l'appréhension de ce monde supérieur est impliquée dans toute pensée qui vise à la vérité. Donc, si vous voulez, ce qui est suggéré, c'est que, selon ce point de vue, qu'on peut qualifier d'augustinien, toute pensée qui vise à la vérité comporte une référence implicite à un être supérieur qui, non seulement sait et dit dans tous les cas la vérité, mais qui est la vérité. En ce qui concerne le genre de connaissance que Dieu a des mathématiques ou de quoi que ce soit d'autre, la vérité est peut-être que nous ne sommes pas en mesure de nous en faire une idée quelconque et que nous ne devrions pas essayer de le faire. Mais il y a des raisons de penser que si Dieu connaît quelque chose en mathématiques, et même s'il connaît le tout des mathématiques, il doit s'agir des mathématiques telles que nous les connaissons nous-mêmes. Wittgenstein dit même, d'une façon qui pourrait être jugée comme blasphématoire, que Dieu n'en sait pas plus que nous en mathématiques. On a généralement considéré qu'il en savait infiniment plus, on a même considéré qu'il savait le tout des mathématiques, mais là où ça devient compliqué, c'est quand on se demande ce qu'il sait au juste et de quelle façon il le sait. S'il y a une démonstration de l'existence d'un couple de nombres premiers de la forme n plus 2, qui est le plus grand de tous, qu'on appelle le problème des nombres premiers jumeaux, donc s'il y a une démonstration concernant ce fait, on a l'impression que Dieu connaît la démonstration en question, puisqu'il sait tout, il connaît cette démonstration, et il sait également s'il y en a une ou non, s'il y a ou non une démonstration de cette sorte. Dire qu'il sait s'il existe ou non un couple de nombres premiers de cette espèce ne semble pas pouvoir signifier autre chose, alors qu'il connaît la démonstration s'il y en a une. Il n'est pas nécessaire, et il peut même sembler étrange, de se le représenter en train de regarder la suite entière des nombres naturels, ou celle des nombres premiers, déroulée complètement devant lui, et d'y lire, en quelque sorte, la réponse à la question posée. C'est pourquoi je disais que une question essentielle est effectivement de savoir comment, de quelle façon, ce qu'il sait et de quelle façon il sait ce qu'il sait en l'occurrence. Est-ce que c'est parce qu'il a une démonstration que nous n'avons pour notre part pas encore découverte, ou bien est-ce que c'est parce qu'il a en quelque sorte, il contemple en quelque sorte déroulé devant lui dans sa totalité la suite des nombres naturels et dispose d'une forme d'expérience qui lui permet de savoir si, en regardant suffisamment loin, on a ou non une chance de réussir à trouver un couple de nombres premiers de la forme n plus 2 qui serait le plus grand de tous. Si Dieu se préoccupe de décider des questions mathématiques, il est raisonnable de supposer qu'il le fait lui aussi mathématiquement et non pas par une forme d'expérience ou de quasi-expérience dont nous, êtres finis, sommes malheureusement privés. Ce n'est rien d'autre qu'une façon de souligner que, comme le dit Leibniz, qui a évoqué à certains endroits ce problème, ce n'est rien d'autre qu'une façon de souligner que Dieu connaît dans tous les cas les choses par leur raison complète, et non pas, en l'occurrence ça veut dire par la démonstration, et non pas simplement de façon factuelle ou quasi-factuelle. Mais peut-être il est possible que les choses ne se passent pas du tout de cette façon, et c'est une possibilité qu'évoque McGuinness dans ce passage. C'est une erreur, dit-il, de s'imaginer qu'il, c'est-à-dire Dieu, se fixe lui-même la tâche de découvrir des démonstrations pour des théorèmes supposés, de même que, comme nous l'avons sous-entendu, il n'est pas lui-même intéressé par l'idée de diviser les propositions en analytiques et synthétiques, a priori et a posteriori, bien qu'il sache comment nous devrions, et effectivement, si nous devrions les diviser de cette manière. Bon, McGuinness évoque la possibilité que ce genre de questions ne l'intéresse pas. Personnellement, ça me laisse un peu perplexe, cette possibilité, mais on peut accepter un instant d'envisager les choses de cette manière. Donc peut-être qu'effectivement, il n'est pas intéressé par l'idée d'essayer de diviser les propositions en analytiques et synthétiques, a priori et a posteriori. Je vous ai parlé la dernière fois d'un philosophe qui qui expliquait qu'après sa mort, il serait content de savoir si oui ou non il y a des propositions synthétiques a priori. Donc, est-ce que ce genre de question est susceptible d'intéresser Dieu ou non ? Il est difficile de répondre à la question, mais en tout cas, ce qu'on peut supposer, semble-t-il, et même ce qu'on doit supposer, c'est que Dieu sait quel genre de réponse devrait donner à cette question ceux qui la posent, c'est-à-dire ceux qui s'y intéressent. Boswell raconte une anecdote à propos du docteur Johnson qui a clos une discussion portant sur la question de savoir comment Dieu a pu abattre 5 ou 10 000 Philistins dans une bataille de l'Ancien Testament en disant « Nous ne devons pas supposer que l'ange du Seigneur s'est mis en devoir de les poignarder avec une dague ou les a frappés sur la tête, homme par homme. » Donc, peut-être que quand nous nous demandons si Dieu est intéressé par la question de savoir s'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux ou si... s'il y a ou non des propositions synthétiques a priori, peut-être que nous commettons le même genre d'erreur que celui contre lequel proteste le docteur Johnson. Mais il n'empêche qu'il y a un problème bien réel concernant l'idée que nous pouvons nous faire de la façon dont Dieu connaît ce qu'il connaît, la façon dont un être réputé omniscient, pas seulement en mathématiques, mais en général, la façon dont il connaît ce qu'il connaît. Si je comprends bien McGuinness, il veut dire notamment que Dieu n'est peut-être pas intéressé par l'idée de se poser les questions philosophiques que nous nous posons, mais en tout cas, il connaît les réponses que nous devrions leur donner et il sait également si nous avons raison ou non de les poser. Elles pourraient bien entendu également être mal posées ou dénuées de sens et n'avoir par conséquent pas de réponse. Il semble légitime de supposer que Dieu ne sait pas seulement dans quel sens une question philosophique est décidée à l'intérieur de tel ou tel système, mais sait également lequel de ces systèmes est le bon et devrait être choisi par nous, même si nous-mêmes n'avons probablement pas les moyens de savoir que c'est celui-là qui est le bon et de le choisir pour cette raison. Si on adopte le point de vue de quelqu'un comme Villemin, donc nous sommes forcé de choisir entre différentes possibilités, mais nous n'avons pas les moyens d'établir de façon démonstrative qu'une de ces possibilités est la bonne et par conséquent celle qui doit être choisie. Mais s'il y a une réponse à cette question, c'est-à-dire quelle est celle de ces possibilités qui est la bonne, donc il s'agit des possibilités qui correspondent aux différentes formes de systèmes philosophiques, s'il y a une réponse à cette question, on est autorisé à supposer que Dieu la connaît. Il importe de ne pas oublier ici que l'idée de l'omniscience divine ne joue pas seulement un rôle dans notre conception de choses comme la vérité et la connaissance, mais également dans la façon dont nous nous représentons la vie morale. Il y a de bonnes raisons de penser que Dieu seul est en mesure de connaître l'histoire complète de nos actions et des motivations qui les ont inspirées, de sorte qu'il est aussi le seul à pouvoir juger réellement les mérites et les fautes. Et c'est de cette manière que l'idée du juge suprême vient s'ajouter inévitablement à celle, et semble-t-il avec de meilleures raisons encore, à celle du sujet connaissant omniscient. L'idée d'un jugement dernier, dit McGuinness, l'idée d'un jugement dernier est l'idée que c'est Dieu qui sonde les esprits et les têtes des hommes, combine l'idée qu'il y a un compte-rendu complet de ce que nous sentons et du pourquoi de nos actions. Donc elle combine cette idée avec l'idée que dans notre état présent, nous ne pouvons pas l'atteindre. Donc nous ne pouvons pas parvenir à ce compte-rendu complet de l'histoire de nos actions. Sans l'idée de l'omniscience de Dieu, nous devrions supposer que notre vie morale a le caractère indéfini d'un rêve. Avec elle, donc avec cette idée de l'omniscience de Dieu, nous pouvons supposer que même les rêves ne sont pas insondables et nous devons supposer qu'il y a une réponse correcte à des questions portant sur les motifs et les mérites qui sont pour nous indécidables. Donc nous avons besoin, là ça me paraît peu discutable, donc nous avons besoin de cette idée d'un juge suprême pour pouvoir accorder un certain crédit à l'idée d'une espèce de compte-rendu complet de l'histoire de nos actions qui expliquerait entièrement de quelle façon nous avons été amenés à agir comme nous l'avons fait, qui permettrait de juger en toute de façon parfaitement équitable des mérites et des blâmes. Donc ce que dit McGuinness me semble exact. Je trouve, je l'avoue, fascinant et pour tout dire un peu inquiétant d'entendre fréquemment à la radio ou à la télévision les victimes ou leurs représentants dans certains procès déclarer avec une insistance presque obsessionnelle qu'il voudrait à tout prix que les accusés s'expliquent, au moins réellement, sur les raisons pour lesquelles ils se sont conduits comme ils l'ont fait et ont commis les abominations que le tribunal va s'efforcer de juger. D'une part, étant tenté d'objecter, il n'est pas du tout certain, dans un bon nombre de cas, qu'ils le sachent eux-mêmes. D'autre part, il n'est pas non plus certain que qui que ce soit ait les moyens de le savoir réellement, même pas les avocats, quoi qu'ils en pensent. On pourrait même aller plus loin, du reste, on pourrait aller plus loin que cela et suggérer qu'il n'est même pas certain que l'explication demandée existe véritablement à chaque fois. Il se pourrait que, comme dans le cas du réalisme, nous ayons besoin ici à nouveau de l'idée d'un sujet connaissant omniscient comme garantie de l'existence corrélative d'une histoire complète de l'action qui permettrait de décider toutes les questions ayant trait aux motivations, aux mérites et aux fautes. Que l'idée d'une histoire de cette sorte puisse comporter elle aussi un aspect proprement théologique est une chose qui, je l'avoue, ne fait guère de doute à mes yeux. S'il y a un évaluateur et un juge ultime, il est légitime de supposer qu'il y a une réponse dans tous les cas, même si nous n'avons peut-être aucune chance de réussir à la connaître. D'un point de vue anti-réaliste, au contraire, il est beaucoup plus raisonnable de considérer que c'est nous et nous seuls qui jugeons et construisons dans tous les cas la réponse avec les moyens limités et relativement incertains dont nous disposons. Mais cela signifie justement qu'il n'y a pas de garantie a priori que la réponse existe nécessairement dans tous les cas. Donc, comme vous pouvez le constater, sur cette question qui est de nature morale, le conflit entre le réalisme et l'antiréalisme a un sens tout à fait clair et même tout à fait concret. Je ne suis pas là cependant pour vous parler de ce qui se passe dans les tribunaux humains ou de ce qui se passera au jugement dernier. Ce qui nous intéresse est uniquement ce que nous devons dire à propos du cas de la philosophie elle-même. Son cas ne ressemble apparemment pas beaucoup à celui des mathématiques. Ne ressemblerait-il pas davantage, en fin de compte, à celui de la morale ? On pourrait être tenté de dire, dans ces conditions, que notre vie philosophique elle-même aurait le caractère indéfini et même souvent confus d'un rêve si nous ne nous sentions pas autorisés à supposer implicitement que quelqu'un connaît la réponse correcte aux questions que nous nous posons, même en philosophie. Ce que Charles Dubos, la philosophie pouvant être assimilée plus ou moins à ce que Charles Dubos appelle la constante manipulation de l'insoluble. Cette espèce de manipulation constante de l'insoluble que nous nous permettons et à laquelle nous nous livrons même avec passion, a peut-être un besoin essentiel de l'idée que les solutions n'en existent pas moins bel et bien et que quelqu'un, à savoir un être omniscient comme Dieu, qu'il soit ou non intéressé par les problèmes eux-mêmes, sait ce que sont les solutions en question. Donc la possibilité que j'évoque, c'est que nous ayons besoin, en quelque sorte a fortiori, dans le cas de la philosophie, c'est-à-dire d'une discipline qui pose tellement de questions et en résout aussi peu, que nous ayons besoin donc d'une garantie qui est un peu du même genre que celle dont nous avons besoin pour justifier de façon générale la position réaliste. Alors, il faut du reste remarquer que les philosophes insistent constamment sur le fait que, le fait bien connu que dans leur cas, le questionnement est bien plus important que les réponses. Il est beaucoup plus important d'être intéressé par les questions, de les poser, de les discuter, que d'être en mesure d'y apporter véritablement des réponses. Qu'en est-il sur ce point des questions ontologiques, dont Villemin, comme je l'ai rappelé à différentes reprises, pense qu'elles constituent le principe de la division et du conflit en philosophie, et dont on peut dire par conséquent qu'une décision les concernant permettrait de mettre fin aux désaccords qui existent entre les philosophies. C'est ce qui semble résulter de ce que dit Villemin. Donc si on réussissait à mettre les philosophes d'accord sur ces questions d'ontologie, c'est-à-dire en fin de compte sur l'endroit exact où il faut faire passer la distinction entre l'apparence et la réalité, si on réussissait à les mettre d'accord sur ce type de questions, alors on réussirait du même coup à mettre fin au conflit qui existe entre les philosophies. Alors je vous rappelle, je cite à nouveau deux passages que j'avais déjà eu l'occasion de citer l'année dernière, de Villemin. La philosophie, dit-il, est comme l'axiomatique en ce que toutes les deux cherchent la vérité, mais à la différence de la vérité scientifique, sa considération de l'ontologie amène la philosophie à généraliser une opposition qui est seulement d'une importance locale et mineure dans la science. Des systèmes philosophiques rivaux luttent pour des frontières reconnues, sinon fixées, entre apparence et réalité. Donc vous voyez, c'est vraiment là que se situe le principe de division entre les philosophies. Les philosophes ne sont pas d'accord initialement et fondamentalement sur la façon correcte de tracer la distinction entre apparence et réalité. Autre citation de Villemin, « Telle qu'elle est appliquée à l'ontologie, l'axiomatique produit inévitablement le pluralisme et le désaccord. De fait, la raison philosophique est née et vit dans la contestation. » Fin de citation. Les questions ontologiques se présentent généralement sous la forme de questions d'existence concernant des objets d'une certaine sorte, comme par exemple les nombres ou les objets abstraits en général. C'est un des domaines dans lesquels il y a eu des discussions ontologiques, parfois assez violentes. Je vous parlais donc des questions ontologiques ayant trait à l'existence ou à la non-existence de certains objets abstraits comme les nombres, ou comme des nombres de telle ou telle espèce. Dans sa réponse à McGuinness, Demet commence par remarquer que ces questions, les questions ontologiques, ont un caractère assez spécial et qui est susceptible de nous laisser un peu perplexes. En d'autres termes, ce ne sont pas des questions d'existence quelconque, ce sont des questions d'existence qui présentent un caractère un peu particulier. Un nominaliste comme Hartree Field, dit Demet, alors Hartree Field est connu pour avoir publié en 1980 un livre qui a fait grand bruit qui s'appelle « Science Without Numbers, A Defense of Nominalism », donc la science sans nombre, une défense du nominalisme. Donc il s'agit d'un livre dans lequel il défend l'idée que même la science physique, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire en première vue, pourrait tout à fait se passer de faire référence à des entités mathématiques abstraites telles que des nombres, des fonctions, des ensembles, etc. Comme vous pouvez l'imaginer, évidemment, c'est un livre qui a provoqué un certain choc. Donc un nominaliste comme Hartree Field ne croit pas qu'il y ait des choses quelconques du genre des nombres réels. Donc ce genre de choses, pour lui, n'a pas d'existence réelle. Qu'est-ce exactement qu'il ne croit pas ? Aussi complètement dans l'erreur que nous puissions penser qu'il est, et on a pensé généralement qu'il était dans l'erreur, il serait facile de le comprendre s'il pensait que cela n'a pas de sens de parler de nombres réels. Donc une façon de l'interpréter qui rendrait ce qu'il dit peut-être plus compréhensible, serait de se dire qu'il veut dire qu'en réalité, ça n'a pas de sens de parler de ce genre de choses. Mais ce n'est manifestement pas ce qu'il a voulu dire. Mais peut-il être, dit Demet, crédité d'une pensée comme celle-là, c'est-à-dire de la pensée que ça n'a pas de sens de parler des nombres réels. Il comprend que les théories scientifiques doivent être reformulées si elles veulent éviter toute référence aux nombres réels et à des entités mathématiques semblables. Et il comprend la finalité de ces théories dans l'état où elles sont avant d'avoir été reformulées suffisamment bien pour savoir ce qui comptera comme une reformulation. Autrement dit, il ne pourrait sûrement pas se permettre de dire qu'il ne comprend pas ce que veulent dire les gens qui utilisent des expressions qui font référence à des nombres réels. Des nombres réels considérés comme des entités existantes. Il comprend en réalité tout à fait bien ce qu'ils disent. Et c'est tellement vrai qu'il démontre qu'il le comprend suffisamment pour proposer une façon de reformuler la même chose, une paraphrase donc qui permettrait d'exprimer la même chose en évitant toute espèce de référence à des entités de cette sorte. Il sait par conséquent quelle contribution l'assomption de l'existence de nombres réels apporte à l'énoncé d'une théorie scientifique. Comment, dans ces conditions, pourrait-on dire de lui qu'il ne comprend pas le sens de ce qu'on dit quand on parle d'eux ? Ces arguments ne prennent pas la forme qui consisterait à démontrer que la référence aux nombres réels est dénué de sens, ce sur quoi il insiste est plutôt le fait que nous n'avons pas et ne pourrions pas avoir de preuves quelconques en faveur de leur existence. Donc ce sur quoi il insiste, peut-on supposer, est plutôt le fait qu'il n'y a pas d'argument décisif qui permette de conclure à l'existence d'objets de cette sorte. On comprendrait par conséquent mieux sa thèse si on lui faisait dire que nous pouvons, au prix d'une bonne quantité de travail à fournir, dire tout ce que nous désirons dire sans avoir à assumer ou à présupposer qu'il existe des nombres réels quelconques. Puisque nous ne savons pas qu'ils existent, nous ferions mieux de dire les choses de cette manière, ou tout au moins de stipuler que c'est tout ce que nous avons l'intention d'asserter. Bien entendu, sa position sera implausible s'il soutient qu'il peut y avoir ou ne pas y avoir des nombres réels, et que s'ils n'existent pas, néanmoins, ils auraient pu exister. Donc, il ne pourra pas se contenter de dire qu'il pourrait exister, mais qu'il n'existe pas. Il doit, d'une certaine façon, être prêt à aller jusqu'à dire que non seulement il n'existe pas, mais il n'aurait pas pu exister. Il sera dit de mettre sur un sol plus ferme s'il affirme non seulement qu'il n'y en a pas, mais qu'il n'aurait pas pu y en avoir. Sa raison pourrait être qu'il est impossible qu'il y ait quoi que ce soit dont il est impossible de connaître l'existence. Donc est-ce qu'on a le droit de parler de l'existence d'une chose dans des situations dans lesquelles il est tout à fait impossible de savoir si les entités considérées existent ou non? Est-ce qu'on peut parler d'une existence dont il nous est radicalement impossible de savoir si elle est donnée ou non? Alors la difficulté que signale Domet à propos de l'interprétation des questions ontologiques, comme celle de l'existence des nombres réels ou celle de l'existence des nombres en général, cette difficulté est, me semble-t-il, réelle et sérieuse. Voyez par exemple ce que Hartree Field dit au début de son livre. Alors je crois que j'ai oublié de vous... Je vous laisse regarder la deuxième partie. Je vais vous citer ce que dit Hartree Field au début de son livre, donc « Science Without Numbers », à propos de la position qu'il a l'intention de défendre. Alors, il dit ceci, le nominalisme est la doctrine selon laquelle il n'y a pas d'objet abstrait. Le terme « entité abstraite » ne peut pas être entièrement clair, mais une chose qui semble claire est que de telles entités prétendues, comme les nombres, les fonctions et les ensembles, sont abstraites. C'est-à-dire, elles seraient abstraites si elles existaient. Donc, une des rares certitudes que nous avons, c'est que ce genre d'entité, c'est-à-dire les nombres, les ensembles, les fonctions, si elles existaient, seraient des entités abstraites. Donc elles seraient abstraites si elles existaient. En défendant le nominalisme, par conséquent, je nie que les nombres, les fonctions, les ensembles ou des entités semblables quelconques existent. Hein, c'est ça la position nominaliste. Puisque je nie que les nombres, les fonctions, les ensembles, etc. existent, je nie qu'il soit légitime d'utiliser des termes qui visent à faire référence à de telles entités ou des variables qui visent à prendre pour domaine de valeur de telles entités dans notre explication ultime de ce à quoi ressemble réellement le monde. Donc voilà, vous avez ici le texte, la position donc, que Hartree Field entend défendre. Je nie, dit-il, que les nombres, les fonctions, les ensembles, etc. existent. Je nie qu'il soit légitime d'utiliser des termes qui visent à faire référence à de telles entités ou des variables qui visent à prendre pour domaine de valeur de telles entités dans notre explication ultime de ce à quoi ressemble réellement le monde. Or, une des premières choses sur lesquelles Hartree Field tient à être tout à fait clair est que, en dépit de tout ce qui a pu être dit sur ce point, l'utilité des entités mathématiques n'est pas semblable à celle des entités théoriques en général. Je me permets d'insister sur ce point parce qu'il est tout à fait crucial. Il défend explicitement l'idée qu'il ne faut pas mettre sur le même plan les raisons que l'on peut avoir, que l'on a effectivement d'admettre des entités théoriques d'une certaine sorte dans le cadre d'une discipline comme la physique, avec les raisons que l'on pourrait avoir, selon lui on n'en a pas, en tout cas pas de suffisamment convaincantes, le genre de raisons que l'on pourrait avoir d'accepter dans le cadre des mathématiques des entités abstraites telles que les nombres, les fonctions, les ensembles, etc. Alors, il résulte de ce refus d'identifier les deux situations, il résulte de cela qu'on ne pourrait pas se contenter, pour justifier l'acceptation des assertions d'existence concernant les entités mathématiques, on ne pourrait pas se contenter de dire que celles-ci sont indispensables au même titre que des entités théoriques de différentes espèces pour la constitution de la science. D'un point de vue proprement philosophique, cela ne serait pas suffisant, puisqu'un philosophe peut estimer que les entités mathématiques non seulement n'existent pas, mais ne pourraient pas exister. C'est un point qui a une certaine importance, puisque, comme on le verra, j'aurai l'occasion de vous reparler assez longuement de cette question, comme on le verra, il y a des philosophes éminents, comme Quine, par exemple, qui pensent que les raisons pour lesquelles nous sommes obligés, en pratique, d'inclure dans notre ontologie des entités comme les ensembles, ne sont pas différentes, en fin de compte, de celles pour lesquelles nous pouvons être amenés à accepter l'existence d'objets comme les gènes, les électrons, les neutrinos ou les quarks. Or, Field explique clairement qu'il considère que, encore une fois, les deux situations ne sont pas du tout comparables. Par conséquent, il refuse le genre de position qui est adoptée par Quine, qui consiste à dire, à peu près pour les mêmes raisons pour lesquelles nous avons besoin d'admettre en physique des entités théoriques, qui sont de type, qui peut être du reste de type plus ou moins abstrait, à peu près pour les mêmes raisons, nous ne pouvons pas refuser d'accepter, dans le cas des mathématiques, des entités abstraites, en particulier les ensembles, hein, qui, qui ont été considérés souvent comme la notion de base sur laquelle on peut espérer réussir à reconstruire la totalité des mathématiques. Donc les deux situations ne sont pas comparables selon Field. Il n'est donc pas du tout, sa position n'est donc pas du tout comparable à celle de Quine, et on est tenté de dire que c'est lui qui défend sur ce point une position proprement philosophique, en assumant ouvertement la conséquence qu'elle implique, à savoir l'obligation de reformuler toutes les propositions des sciences de façon à ce que plus aucun des termes faisant référence à des entités mathématiques n'y apparaisse. Il dit ceci: je vais arguer que les entités mathématiques ne sont pas indispensables du point de vue théorique, bien qu'elles jouent un rôle dans les théories puissantes de la physique moderne, nous pouvons donner des reformulations attrayantes des théories de ce genre dans lesquelles les entités mathématiques ne jouent aucun rôle. Si c'est exact, alors nous pouvons adhérer en toute sécurité à une conception fictionnaliste des mathématiques. Ça, c'est le genre de choses qui faisait horreur à Gödel et contre lequel il a protesté régulièrement, donc une conception fictionnaliste des mathématiques, qui est l'antithèse la plus radicale à une conception réaliste ou platonicienne. Car, dit Field, le fait d'adhérer à une conception de ce genre n'impliquera pas que nous nous privions d'une théorie qui explique les phénomènes et que nous puissions considérer comme littéralement vrai. Donc nous serons obligés de n'aurons à nous priver d'aucune théorie physique importante, et nous n'aurons pas non plus à renoncer à expliquer quoi que ce soit de ce que la théorie, le genre de théorie en question, est capable d'expliquer. La question de savoir si des choses comme les nombres réels existent ou non est troublante, parce qu'il ne s'agit apparemment pas de se décider, comme cela serait le cas dans les sciences, pour ou contre une hypothèse qui peut être vraie ou fausse, sans qu'il y ait des raisons déterminantes qui parlent en faveur de l'une ou l'autre de ces deux éventualités. Les gens qui discutent sur ce genre de questions, quand vous avez un affrontement entre des gens qui affirment que les ensembles transfinis existent et quelqu'un d'autre qui proteste que non, ils n'existent pas, cette situation n'est pas comparable, si vous voulez, au genre de conflit qu'il peut y avoir concernant la discussion d'une hypothèse proprement dite. Ce ne sont pas des gens qui disent peut-être qu'ils existent, et moi je crois que c'est le cas, l'un disant donc peut-être qu'ils existent, moi je crois que c'est le cas, l'autre disant peut-être qu'ils existent, et moi je crois cependant que ça n'est pas le cas. C'est pas exactement de cette manière-là que les choses semblent se passer, donc il ne semble pas qu'on soit confronté à un désaccord portant sur une hypothèse proprement dite, en faveur de laquelle on peut, en défaveur de laquelle on peut invoquer des arguments de telle ou telle espèce. C'est une des raisons pour lesquelles on a tendance à penser qu'il s'agit d'une question proprement philosophique. Celui qui affirme que les entités abstraites de l'espèce considérée existent est prêt, semble-t-il, à affirmer également qu'elles ne pourraient pas ne pas exister, et celui qui nie qu'elles existent est prêt à nier également qu'elles auraient pu exister. C'est ce qui amène Damet à remarquer ceci à propos de l'existence. L'existence est un concept qui suscite la perplexité quand il est prédiqué d'objets abstraits. Donc il a tendance à penser que l'utilisation du concept d'existence nous pose un problème spécifique quand le concept est utilisé à propos d'objets abstraits. L'existence est un concept qui suscite la perplexité quand il est prédiqué d'objets abstraits, car ils ne semblent pas être des créatures. Nous ne pouvons pas supposer que le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de nombre réel dépende de la question de savoir si Dieu s'est soucié de les créer. Alors là, c'est une question qui a un certain rapport avec un problème dont j'aurai à vous reparler plus tard. C'est une question que s'est posée Descartes, la question de savoir si Dieu ne devrait pas être considéré, est-ce qu'il ne devrait pas être considéré non seulement comme le créateur des existences, mais également comme le créateur, est-ce qu'il ne devrait pas être considéré en plus de ça comme le créateur des possibilités ou des essences? Et naturellement, Leibniz est en désaccord total avec cette position, puisqu'il considère qu'en aucun cas, Dieu ne pourrait être le créateur des possibles ou des essences. Mais Descartes pense qu'il peut l'être bel et bien. Par conséquent, si vous voulez, pour quelqu'un comme Descartes, il ne va pas de soi que l'on doive écarter la possibilité que la question de savoir s'il y a ou non des nombres réels dépend de la question de savoir si Dieu s'est préoccupé ou non de les créer. Y a-t-il, se demande Domet, des cardinaux mesurables? Si la question ne demande pas s'il y a une contradiction cachée dans le concept de nombre réel, que demande-t-elle ? Cela n'aurait assurément pas de sens de dire qu'il pourrait y avoir des nombres naturels, mais il n'y en a pas dans les faits. Mais cela n'implique pas que nous puissions interpréter la question « Les cardinaux mesurables existent-ils ?» comme signifiant « Pourrait-il y avoir des cardinaux mesurables ?» La dépendance doit avoir lieu dans l'autre sens pour comprendre ce qu'on veut dire en disant que quelque chose pourrait être ainsi. Nous devons déjà comprendre ce que c'est pour lui que d'être ainsi. Autrement dit, quand nous nous demandons à propos d'objets abstraits appartenant à une certaine catégorie, s'ils existent ou non, nous ne nous demandons pas simplement s'il est possible pour des objets de cette sorte d'exister, ça ne serait pas suffisant, et nous ne nous demandons pas non plus s'ils se trouvent ou non exister dans les faits, un peu comme s'il s'agissait d'une question empirique ou quasi-empirique pour laquelle la réponse pourrait être aussi bien positive que négative. Par exemple, elle pourrait dépendre donc de ce que Dieu a décidé, de la question de savoir si Dieu a décidé ou non de créer des choses d'une certaine sorte. Et là, ce que veut dire Domet, donc, c'est que quand nous affirmons que des objets de ce type existent, nous n'affirmons pas, nous n'énonçons pas simplement une possibilité, c'est-à-dire nous ne faisons pas simplement référence à la possibilité qu'ils existent, nous disons quelque chose de plus fort que cela, et nous ne traitons pas non plus la question comme s'il s'agissait simplement d'une question quasi-factuelle ou quasi-factuelle concernant l'existence ou la non-existence de choses qui pourraient aussi bien exister que ne pas exister. Pour en revenir à la question de savoir de quelle façon nous devons nous représenter la connaissance de Dieu, Damet confirme qu'il a conservé une grande sympathie pour l'argument de saint Augustin en faveur de l'existence de Dieu comme étant lui-même la vérité. Vous voyez ce passage, si l'argument de saint Augustin va dans le bon sens, la relation de la connaissance de Dieu à ce qu'il connaît est tout à fait différente de celle de la connaissance des hommes à ce qu'ils connaissent. Il doit y avoir un sens assez fort auquel la vérité de ce que, quoi que ce puisse être, il connaît, donc la vérité de ce que Dieu connaît, quoi que ce puisse être, est constituée, soulignée par la connaissance qu'il en a, plutôt qu'elle n'en est la source. Dans le cas normal, donc pour nous, c'est la vérité la source de la connaissance. Il y a des choses qui sont vraies et nous avons, dans une certaine mesure, la capacité de reconnaître qu'elles sont vraies, tandis que dans le cas de Dieu, donc, on aurait une situation dans laquelle la vérité de quoi que ce soit est constituée de façon littérale par la connaissance qu'il en a, plutôt qu'elle n'en est la source. Je n'entends pas par là que la connaissance que Dieu a de ce qui arrive doit être conçue sur le modèle de notre connaissance en intention des choses que nous faisons ou allons faire. Là, Domet veut dire que quand il dit que la vérité de la chose est constituée par la connaissance que Dieu en a, il ne faut pas comprendre ça dans un sens analogue à celui auquel nous pouvons dire que la vérité de certaines choses est constituée par le fait que ce sont des choses que nous avons l'intention de faire, hein, des choses que nous sommes en train de faire ou que nous avons l'intention de faire. Donc, il s'agit réellement de quelque chose de tout à fait spécial. Hein, les considérations auxquelles je me livre depuis un moment ont surtout pour but d'attirer votre attention sur le genre de problème difficile et probablement insoluble que soulève donc l'idée que nous sommes amenés à nous faire de ce que peut vouloir dire pour un être omniscient comme Dieu, de ce que peut vouloir dire exactement connaître. Je dois avouer que même à l'époque où je croyais en Dieu, je n'ai jamais été tout à fait certain de comprendre ce qu'on veut dire au juste quand on parle de Dieu comme étant lui-même la vérité, ou d'une vérité qui est constituée de façon plus ou moins littérale par le fait que quelqu'un, en l'occurrence Dieu, la connaît. Je veux dire, si vous référez à Dieu, ce qui est le cas dans le catholicisme, comme étant un être personnel, il devient, me semble-t-il, un peu difficile. Vous pouvez parler d'un être en question comme étant un être qui sait dans tous les cas la vérité ou qui dit dans tous les cas la vérité, et dire d'un être de cette sorte qu'il est la vérité, si ce n'est pas dans un sens plus ou moins métaphorique, c'est quelque chose qui, non, je ne dis pas que c'est forcément dépourvu de sens, mais c'est en tout cas quelque chose que j'ai personnellement beaucoup de mal à comprendre. En tout cas, ce qui semble être le cas, ce qui semble être vrai, est qu'il est naturel de supposer que si Dieu existe, il sait, en vertu des pouvoirs de connaissance illimités dont il dispose, s'il y a ou non des objets tels que les nombres réels ou les ensembles transfinis, sans que, comme le fait remarquer Domet, cela doive être compris comme signifiant qu'il le sait parce qu'il sait s'il a ou non jugé bon de créer des objets de cette sorte. Et dans ce cas, que l'on soit ou non prêt à admettre que la vérité sur ces questions est constituée par la connaissance qu'il a d'elle, il est clair que ces questions sont décidables, même si nous n'avons pas réussi jusqu'à présent et ne réussirons peut-être jamais à les décider. Dans le chapitre 15 d'un autre de ce livre, donc, qui s'appelle « The Logical Basis of Metaphysics », la base logique de la métaphysique, qui est paru en 1991, vous trouvez le passage suivant, dans lequel Domet observe que si le réalisme, c'est-à-dire l'acceptation du principe de bivalence pour toute proposition qui a un sens univoque, si donc le réalisme implique probablement comme une condition nécessaire le théisme, donc si le réalisme est vrai, le théisme doit l'être. Donc, en revanche, souligne Domet dans ce passage, le théisme n'est pas une condition suffisante pour le réalisme. Pour quelle raison ? C'est ce qui est expliqué dans ce passage. C'est une illusion, dit Domet, persistante de croire que de la prémisse que Dieu sait tout, on peut déduire qu'il sait si une proposition donnée quelconque est vraie ou fausse. C'est-à-dire que, ou bien il sait qu'elle est vraie, ou bien il sait qu'elle est fausse, et que son omniscience, par conséquent, implique que toute proposition est soit vraie, soit fausse. Donc, il semble dire, dans ce passage, et même il dit que on ne peut pas espérer déduire la proposition qui correspond à l'énonciation du principe de bivalence, c'est-à-dire toute proposition, sous-entendue à la condition d'avoir un sens suffisamment déterminé, soit vraie, soit fausse. On ne peut pas espérer déduire cette proposition de la supposition de l'existence d'un être omniscient. Au contraire, dit-il, le fait qu'elle est soit vraie, soit fausse, cette proposition donc est requis comme une prémisse supplémentaire pour déduire de son omniscience qu'il sait, au sens indiqué, si elle est vraie ou fausse. Donc il faut que nous ayons déjà des raisons sérieuses et indépendantes de postuler que pour toute proposition P ayant un sens déterminé, cette proposition est soit vraie, soit fausse. Il faut que nous ayons des raisons qui nous autorisent à affirmer cela pour pouvoir conclure que Dieu sait pour toute proposition de cette sorte si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc il ne faut pas se méprendre sur le sens dans lequel opère le raisonnement, hein, à condition que nous soyons autorisés à affirmer à propos de toute proposition qu'elle est soit vraie, soit fausse. Nous pouvons également affirmer que Dieu qui sait tout sait si elle est vraie ou si elle est fausse, mais nous ne pouvons pas espérer faire le chemin en sens inverse. Alors la raison de cela n'est pas difficile à comprendre. L'omniscience divine implique que pour toute proposition P, Dieu sait que P, si P est vrai, mais cela ne nous dit pas quelles sont les propositions qui sont vraies. La question reste d'une certaine façon entière. Et cela ne constituerait pas non plus une réponse satisfaisante de dire que Dieu, qui est l'auteur de toutes choses, sait dans tous les cas si elles sont ou ne sont pas telles ou telles, parce qu'il les a faites. Car il pourrait, après tout, avoir créé une réalité partiellement indéterminée qui n'est pas capable de rendre vraie ou fausse n'importe quelle proposition. Autrement dit, il y a deux questions réellement différentes qu'il faut distinguer soigneusement. Il y a la question de savoir s'il existe dans tous les cas une manière dont les choses sont réellement, par opposition à la manière dont elles apparaissent, qui est susceptible de rendre vraies les propositions que nous pouvons être amenés à formuler à leur sujet. Et puis, il y a la question de savoir de quelle nature est cette réalité. Est-ce qu'elle est suffisamment déterminée ? Est-ce qu'elle est, dans tous les cas, suffisamment déterminée, cette réalité, donc, que nous avons supposée indépendante, pour que nous puissions, pour que nous soyons justifiés à asserter, dans tous les cas, à asserter à propos de n'importe quelle proposition P ayant un sens suffisamment déterminé, qu'elle soit vraie, soit fausse. Domet remarque qu'un vérificationniste sera amené à peu près inévitablement à soutenir que la réalité est jusqu'à un certain point indéterminé. Donc lui, probablement à la différence du réaliste, acceptera assez facilement l'idée que la réalité pourrait être partiellement indéterminée, car nous n'avons pas d'idée de la réalité en dehors de celle qui consiste à la concevoir comme étant ce qui rend vraies les pensées vraies que nous pouvons entretenir et les propositions vraies que nous pouvons énoncer. Mais évidemment, dire qu'une proposition est rendue vraie ou fausse, pour un antiréaliste, c'est dire que il s'agit d'une proposition que nous avons dans une certaine mesure les moyens de vérifier ou de réfuter. Par conséquent, si nos propositions et nos pensées ne sont pas toutes de façon déterminée vraies ou fausses, ce qui veut dire pour un antiréaliste, encore une fois, ne sont pas toutes vérifiables ou réfutable, nous devons admettre que la réalité elle-même est indéterminée, parce que c'est la seule idée que nous avons finalement de la réalité. L'antiréaliste n'a pas à sa disposition le genre de représentation d'une réalité complètement indépendante de nos activités de connaissance, dont le réaliste n'éprouve aucun scrupule à se doter. Hein. C'est le réaliste qui dispose d'une représentation de cette sorte. Mais, encore une fois, l'antiréaliste considère que nous n'avons accès à la réalité qu'à travers, largement, à travers des choses que nous sommes susceptibles de supposer, de vérifier, de réfuter, etc., à propos de la réalité en question. Par conséquent, Damet, me semble-t-il, a raison de dire que l'antiréaliste acceptera assez facilement l'idée que la réalité pourrait être indéterminée, c'est-à-dire qu'elle comporte, comme dit Damet, des trous, à peu près, c'est lui qui utilise cette comparaison, à peu près comme un roman en comporte, en ce sens qu'il y a des questions concernant les personnages auxquels le roman ne donne pas de réponse et pour lesquels il n'y a par conséquent pas de réponse. Damet proteste contre la tentation de considérer cela comme une supposition qui est en contradiction avec l'existence de Dieu et il soutient qu'un théiste peut lui aussi trouver des raisons de mettre en doute le principe de bivalence. Donc il répond à la question un théiste est-il obligé d'accepter le principe de bivalence ? Et il répond qu'il n'est pas contraint de le faire pour la raison... Alors, excusez-moi... oublier bon, comme j'arrive pas à retrouver la diapositive, je vais simplement vous lire le texte. J'ai entendu soutenir, dit-il, que c'est toujours Damet qui parle, j'ai entendu soutenir que c'est une doctrine athée, donc la doctrine qui consiste à mettre en question le principe de bivalence, donc il s'agit du genre de doctrine que défendent les antiréalistes. Le problème, c'est de savoir, si vous voulez, si étant donné le genre de lien qui peut donner l'impression d'exister entre le réalisme et le théisme, est-ce que un antiréaliste ne serait pas de ce fait, ne se trouverait pas de ce fait condamné à adopter une position qui est athée. Damet dit, j'ai entendu soutenir que c'est une doctrine athée, donc la contestation du principe de bivalence, pour la raison que Dieu, qui n'est pas sujet à nos limitations, doit savoir à propos de toute proposition si elle est vraie ou fausse, de sorte que notre incapacité de déterminer cela ne devrait pas conduire un théiste à mettre en doute la bivalence. Cet argument commet une pétition de principe en assumant que toute proposition est soulignée, soit vraie, soit fausse. Pour dire les choses de façon un peu irrévérencieuse, Dieu ne parle pas notre langage, ses pensées ne sont pas nos pensées. Le recours à la connaissance de Dieu ne sert en aucune façon à expliquer en quoi consiste notre connaissance des conditions qui doivent être remplies pour que nos propositions soient vraies, s'il n'y a pas d'explication de cela sans le recours en question. Le recours est pertinent pour ce qui est de la distinction entre la réalité telle qu'elle nous apparaît et la réalité telle qu'elle est en elle-même. Nous aspirons à nous rapprocher le plus possible d'une appréhension de la façon dont elle se présente en elle-même, mais cette expression n'a pas de sens défendable dans un univers incréé ou s'auto-créant. Tout comme, donc si on n'a pas de référence, si vous voulez, l'idée d'un sujet omniscient, donc cette idée d'une façon dont les choses sont en elles-mêmes, indépendamment de toute activité, de tout processus de connaissance, n'a pas de sens clair. Tout comme il n'y a pas de faille entre la vérité d'une proposition, vous avez ici le texte, tout comme il n'y a pas de faille entre la vérité d'une proposition et la connaissance que Dieu a du fait qu'elle est vraie, l'expression « comment les choses sont en elles-mêmes » n'a en fin de compte pas de signification distincte de « comment Dieu les appréhende comme étant ». Donc la manière dont elles sont, la vérité les concernant, donc la vérité... les concernant telles qu'elles sont en elles-mêmes, n'est pas distincte de la manière dont Dieu sait qu'elles sont, encore une fois. Sauf, dans cette interprétation, la prétention d'avoir décrit le monde comme il est en lui-même, une description qui assumera un caractère mathématique toujours plus purement formel, dans la mesure où il est progressivement vidé des termes dont les significations dérivent de nos facultés d'observation, n'a aucun caractère intelligible. Donc si on n'a pas par cette référence à l'arrière-plan, il est difficile de donner un sens à cette idée de décrire les choses, de nous rapprocher de plus en plus d'une description des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. Et pour la raison que, qu'indique de Maistre, ça veut dire une description qui a toutes les chances d'être une description donnée de plus en plus en termes mathématiques abstraits, c'est-à-dire qui sera dissociée de plus en plus de références à des facultés d'observation particulières, telles que, par exemple, les nôtres. Mais il n'y a pas de raison, ajoute de Maistre, pour laquelle Dieu, en créant l'univers, devrait avoir rempli tous les détails, avoir fourni des réponses à toutes les questions concevables, pas plus qu'un artiste humain, un peintre ou un romancier n'est contraint de le faire. La conception d'un univers créé, mais partiellement indéterminé, est plus facile à comprendre que celle d'un univers incréé et partiellement indéterminé. Donc ça rendrait une discussion assez longue dans laquelle je n'ai pas le temps de me lancer. Un réaliste métaphysique qui est convaincu de l'existence de Dieu peut essayer de justifier son adhésion au principe de bivalence en invoquant le genre de réalité que Dieu a dû créer et en arguant que celle-ci n'a pu être qu'une réalité capable de rendre de façon déterminée, vraie ou fausse, n'importe quelle proposition que nous sommes capables de formuler. Donc il pourrait essayer d'argumenter en disant que la seule réalité digne de l'œuvre de Dieu, la seule réalité qu'il a pu créer est une réalité qui est complètement déterminée, qui est déterminée dans tous ses aspects. Mais c'est un argument qui, évidemment, est d'une portée qui est tout à fait limitée. Je crois me souvenir que Lichtenberg dit quelque part qu'on a tendance à considérer que le monde a été créé par un être parfait, mais disposant d'un savoir et d'un pouvoir illimité, mais on pourrait aussi se le représenter comme étant l'œuvre de quelqu'un qui ne savait pas très bien ce qu'il faisait et a fait un peu n'importe quoi, c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu faire simplement une expérience et l'a faite en quelque sorte pour voir. Alors là, c'est un peu le même type de question qui se pose. Est-ce qu'il faut se représenter Dieu comme ayant éprouvé le besoin, ayant senti le besoin de créer une réalité qui est déterminée dans tous ses aspects? Ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, le cas échéant, se le représenter comme un artiste, plus particulièrement comme un auteur de roman, qui n'a pas répondu à toutes les questions qu'on peut être amené à se poser à propos de ces héros, à propos de ce que sont et de ce que font ces héros? Alors, en ce qui concerne Leibniz, évidemment, la réponse pour lui est tout à fait claire, c'est-à-dire que la réalité qui a été créée par Dieu est une réalité qui possède les caractéristiques nécessaires pour rendre vraie ou fausse n'importe quelle espèce de proposition. En tout cas, de proposition ayant un sens suffisamment déterminé. Mais Damet ne voit pas les choses de cette façon, et pour les raisons que nous venons de voir, il laisse peu d'espoir aux réalistes de réussir à justifier sa position de cette manière, c'est-à-dire en argumentant dans un sens qui consiste à avoir dans l'auteur de toute chose quelqu'un qui a éprouvé le besoin de créer, enfin qui a eu le sentiment qu'il ne pourrait créer qu'une réalité déterminée dans tous ses aspects. Il faudrait évidemment, pour pouvoir raisonner de cette manière, d'après Demet, disposer d'arguments qui permettraient de légitimer de façon indépendante l'acceptation du principe de bivalence. Si on a des raisons d'affirmer déjà de façon indépendante que toute proposition soit vraie, soit fausse, alors on peut conclure de cela au genre de réalité que Dieu a créé et également au fait qu'il doit savoir, il sait pour toute proposition donnée si elle est vraie ou fausse. Mais encore une fois, on ne peut pas raisonner en sens inverse. Même dans le cas des propositions mathématiques qui constituent l'objet du débat entre les réalistes et les constructivistes, il ne faut pas s'imaginer que l'existence d'un sujet omniscient comme Dieu apporte nécessairement de l'eau au moulin du réalisme. Vous voyez ce que dit Damet, le constructiviste admet qu'il est déterminé pour tout nombre naturel s'il est premier ou composé, il nie qu'il en résulte que la proposition selon laquelle il y a une infinité de nombres premiers jumeaux, c'est-à-dire de nombres premiers de la forme n plus 2, donc il nie que il en résulte que la proposition, que cette proposition-là, selon laquelle il y a une infinité de nombres premiers jumeaux, soit de façon déterminée vraie ou fausse. Le réaliste ne peut pas démontrer qu'elle en résulte en l'assumant simplement, même s'il fait un détour par la connaissance que Dieu a des vérités mathématiques. Il ne résulte pas plus que Dieu doit savoir s'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux du fait qu'il, donc ça ne résulte pas plus du fait qu'il connaît tout nombre premier, qu'il ne résulte qu'un calculateur prodige peut dire s'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux du fait qu'il est capable de dire instantanément de n'importe quel nombre, aussi grand soit-il, s'il est premier ou composé. Fin de citation. On pourrait, je crois, exprimer cela, un bon nombre des choses que je vous ai dites aujourd'hui pourraient être résumées en disant qu'il y a un problème qu'il faut résoudre et sous lequel les philosophes ont hésité constamment, c'est-à-dire, si on considère Dieu comme un mathématicien, ce qu'il doit être, si on admet qu'il est omniscient, est-ce qu'il faut se le représenter essentiellement comme un calculateur prodige ou au contraire essentiellement comme un authentique mathématicien? Et ce n'est pas du tout la même chose. On peut légitimement soutenir que même Dieu ne peut pas comprendre l'usage du quantificateur universel en mathématiques d'une façon complètement différente de celle dont nous le faisons. Mais admettons même qu'il le fasse, c'est-à-dire qu'il ait la capacité de le comprendre de façon complètement différente. De quel secours cela pourrait-il être ? De quel secours cela pourrait-il bien être pour nous ? Le réaliste cherche à nous attribuer une compréhension de celui-ci, je veux dire du quantificateur universel, comme étant un opérateur qui produit un énoncé dont la valeur de vérité est déterminée conjointement par ses cas particuliers, indépendamment des moyens que nous avons de le reconnaître comme vrai ou faux. Quand le domaine est infini, la situation devient, semble-t-il, problématique. L'antiréaliste nie que nous puissions comprendre l'énoncé de cette façon, et si le réaliste invoque comme argument le fait que c'est de cette manière-là que Dieu le comprend, la réponse sera que même si un ange nous informait que c'est effectivement de cette façon-là que Dieu le comprend, il n'en résulte sûrement pas que nous puissions le comprendre ainsi, ni même, dans le pire des cas, le comprendre tout simplement. Comme le fait remarquer Damet, l'antiréaliste pourrait même douter de ce qu'affirme l'ange, donc l'ange qui nous a appris, qui nous donne une idée de ce que Dieu sait, l'antiréaliste pourrait même douter de ce qu'affirme l'ange et soutenir que si un processus infini est un processus tel que cela n'a pas de sens de parler de lui comme ayant été effectué jusqu'au bout, cela n'a pas de sens non plus de parler de Dieu comme l'ayant effectué jusqu'au bout. Et il y a des constructivistes qui soutiendraient tout à fait sérieusement ce genre de choses, c'est-à-dire exactement ce que dit Domet, hein, c'est-à-dire si ça n'a pas de sens de parler d'un processus infini comme ayant été effectué complètement, ça n'a pas non plus de sens d'attribuer seulement au caractère limité des facultés dont nous disposons notre impossibilité d'effectuer le processus jusqu'au bout. Autrement dit, Dieu lui-même n'est pas capable, n'a pas les moyens non plus d'effectuer jusqu'au bout un processus de cette sorte. Vous voyez, ce passage de Domet, notre objection à l'imagination de l'arithméticien suprahumain était qu'il n'existe pas une objection plus forte et que, puisqu'il effectue jusqu'au bout des tâches infinies et utilise leurs résultats pour évaluer des propositions quantifiées, il ne pourrait pas exister. C'est pour ça que je dis que, si vous voulez, au fond, le problème, c'est de savoir comment Dieu comprend exactement le quantificateur universel. Est-ce qu'il le comprend d'une façon complètement différente de la nôtre, pour la raison qu'il a les moyens, par exemple, de contempler, comme certains philosophes l'ont dit parfois, d'observer d'un seul coup d'œil, uno intuitu, la totalité des entiers naturels, et de savoir si telle ou telle proposition universellement quantifiée du type tous les nombres sont, etc., ou tous les nombres pairs sont, tous les nombres premiers sont, etc., est-ce que donc sa compréhension du quantificateur universel repose d'une façon quelconque sur cette supériorité qu'il a par rapport à nous, encore une fois, là la capacité qu'il est supposé avoir d'appréhender d'un seul coup d'œil dans les totalités infinies comme la totalité des nombres naturels, ou bien est-ce que la compréhension de l'expression « tous les », la compréhension du quantificateur universel dans son cas, n'est pas exactement du même type que la nôtre et n'est pas par conséquent liée à quelque chose comme à l'existence de procédures démonstratives, par exemple la démonstration par induction, hein, qui nous conduise à l'affirmation du fait que telle ou telle proposition est vraie de tous les nombres. Alors, si la question est posée dans les termes de la confrontation entre le réalisme et l'antiréalisme sémantique, la réponse semble encore plus claire. La question n'est plus de savoir si nous avons des raisons suffisantes de croire à l'existence d'une réalité créée ou incréée qui est capable de rendre vraies ou fausses toutes les propositions que nous pourrions être amenés à formuler et qui nous autorise par conséquent à affirmer sans restriction le principe de bivalence. La question posée est de savoir si nous avons réussi ou non à donner à nos propositions une signification telle qu'elles sont pourvues de conditions de vérité comprises de la façon dont le réaliste propose de les comprendre. Et pour décider cette question-là, le recours à Dieu ne peut évidemment nous être d'aucune aide. C'est ce que Domet dit très clairement. Un recours à des êtres hypothétiques ne nous est d'aucun secours quand nous devons donner une explication de la signification que nous, soulignés, attachons aux phrases de notre langue. Alors, c'est précisément en cela que consiste la question de la confrontation entre le réalisme et l'antiréalisme. Il s'agit de savoir, d'après Demet, donc dans la reformulation qu'en donne Demet, il s'agit de savoir si, oui ou non, nous avons été en mesure de doter nos propositions, en particulier nos propositions mathématiques, d'une signification telle que nous pouvons leur attribuer des conditions de vérité objectives qui sont réalisées ou ne le sont pas, indépendamment de nos activités de connaissance. Et c'est donc, en réaction à cela, Demet dit un recours à des êtres hypothétiques, c'est-à-dire en particulier à un sujet connaissant omniscient, ne nous est d'aucun secours quand nous devons donner une explication de la signification que nous attachons aux phrases de notre langage. Si on regarde les choses de cette façon, on ne sera pas vraiment tenté d'imputer à Dieu des questions qui sont censées constituer un équivalent plus ou moins plausible de celles que nous nous posons en philosophie. On se dira plutôt que les questions philosophiques sont essentiellement, et même d'une certaine façon uniquement, des questions que nous nous posons. On pourrait être tenté d'objecter que cela risque de les rendre, en fin de compte, moins philosophiques, au moins en ce sens qu'elles se trouvent affectées d'une certaine contingence et d'une certaine dépendance par rapport au langage dont nous nous sommes pourvus et d'une certaine dépendance par rapport à l'usage que nous faisons de ce langage. Je crois au contraire que cela ne les rend pas moins, mais plutôt plus philosophiques. Il ne devrait pas être nécessaire de préciser que cela ne fait en tout cas aucun doute pour Demet. Je veux dire que c'est bien de cette façon que Demet voit les choses. Quand les questions philosophiques sont reformulées dans les termes de la théorie de la signification, elles ne deviennent pas moins, estime-t-il, mais au contraire plus conformes à l'idée que l'on se fait généralement, ou en tout cas à l'idée que l'on devrait se faire de ce que doit être une question philosophique. Vous voyez ce qu'il dit dans ce passage, aucune observation d'objet ou de processus physique ordinaire ne nous dira s'ils existent indépendamment des observations que nous faisons d'eux. Donc ce n'est pas l'observation évidemment qui peut nous permettre de décider quel statut ils ont dans les intervalles de l'observation, est-ce qu'ils continuent à exister, est-ce qu'ils disparaissent, réapparaissent, etc. Donc aucune observation d'objet ou de processus physique ordinaire ne nous dira s'ils existent indépendamment des observations que nous faisons d'eux. Un pot que l'on ne regarde pas bouillira, c'est entendu, comme s'il absorbait de la chaleur de façon aussi continue pendant qu'il n'est pas observé que pendant qu'il est observé, mais c'était déjà une des données du problème. Aucune recherche mathématique ne peut déterminer si les énoncés mathématiques ont des valeurs de vérité, même quand ils sont hors de portée des démonstrations ou des réfutations. C'est une assez bonne formulation de la controverse entre le réaliste et l'antiréaliste sur cette question-là. Aucune recherche mathématique ne peut déterminer si les énoncés mathématiques ont des valeurs de vérité, c'est-à-dire sont vrais, sont soit vrais, soit faux, même quand ils sont hors de portée, même quand ils sont provisoirement ou éventuellement définitivement hors de portée des démonstrations ou des réfutations. De même, aucun psychologue ne peut déterminer si les états mentaux se produisent indépendamment de leur manifestation, donc s'ils ont une existence indépendante de celle de leur manifestation linguistique et comportementale. La thèse réaliste n'est pas un objet possible de découverte en même temps que les propositions qu'elle propose d'interpréter. C'est une doctrine concernant le statut de ces propositions. Et bien sûr, la conclusion à laquelle je voulais arriver, c'est que cette doctrine est une doctrine éminemment philosophique. Et c'est du reste ce que veut dire Demet. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.